Les Signes Sauvages, une émission proposée, préparée, présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous. Les Signes Sauvages, Quesaco. Eh bien, c'est assez simple, ma foi. Il s'agit du titre d'un livre de Kenneth White, traduit par son épouse Marie-Claude White, paru aux éditions Le Mot et le Reste en 2013, mais dont la première édition date de 1990, et c'était chez Grasset Fasquelle. Pourquoi Les Signes Sauvages ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai décidé de vous lire in extenso ce récit de voyage de Kenneth White au Japon. Point de départ, Tokyo, la ville tentaculaire. Après quoi, l'auteur part pour le Nord. Il est accompagné de l'ombre tutélaire de Basho, grand poète japonais du XVIIe siècle, initié au Zen, qui fit aussi route vers le Nord. C'est ce grand voyage de Kenneth White vers le Nord que je vous offre tout au long de cet été. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière étape du voyage que nous offre Kenneth White, voyage dans le nord du Japon. Allons-nous voir les fameux signes sauvages ? Mystère. Le matin du 15 octobre, un matin doré, venté, je suis parti sur la route 5 le long de la péninsule d'Oshima. Lorsqu'ayant traversé la banlieue, j'arrive sur la grande route toute fumante et vrombissante de gros camions Nissan et Isuzu, parmi lesquels il s'en trouvera bien un pour m'inviter à monter. Le premier signe que je vois est un énorme panneau publicitaire « Drink Milkland Hokkaido ». Milk, du lait au Japon. Et le fait est que le Hokkaido est un peu le Far West du Japon. Quand le gouvernement Meiji, décidant de tourner les regards du Japon vers l'Occident, créa le nouveau district du Nord, ils firent venir des experts étrangers, 76 en tout, parmi lesquels 46 Américains. L'américanisation qui s'ensuivit se retrouve non seulement dans l'élevage ovin et bovin, mais aussi dans la forme même des maisons. Si on oublie un instant où l'on est, on peut avoir l'illusion de se trouver sur une petite route de campagne de la vieille Amérique. Me voilà donc, clodo du Hokkaido, passant devant ces fermes qu'on dirait sorties du Vermont ou du Connecticut, ces publicités pour le lait et ces panneaux vantant les Cow Puncher Holstein. Ne trouvant pas de voiture tout de suite, j'entre dans un café au bord de la route pour casser une petite croûte. Je suis assis tranquillement à une table couverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs, en train de boire un grand verre de lait et de mâchonner une donut, quand un homme assis à une autre table me lance « America, Desuka !»« Amérique, n'est-ce pas ?» Ne voulant pas compliquer les choses, ni inquiéter ce cow-boy de Hokkaido, je dis « Hi, Oklahoma, Oklahoma, good wreck, bonne chance, good wreck to you, man, bonne chance à vous, l'ami !» Et me voilà reparti, mon vieux look-sack sur le dos, à travers les grandes plaines du Hokkaido. Environ une demi-heure plus tard, assis dans un Isuzu où la radio hurle à plein tube, je comprends d'après un mot qu'on parle de l'arrivée de l'automne aux feuilles rouges. Comment peut-on ne pas aimer un pays, qu'il soit japonais, Ainu ou Japainu, où les feuilles rouges font chaque année la une de l'actualité ? J'ai passé cette nuit-là dans une auberge de jeunesse au bord du lac Toya. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la fenêtre était couverte de buée blanche sur laquelle jouaient les rayons du soleil, exactement comme dans le chant de la baleine que j'ai trouvé dans mon gros livre bleu. Ce chant, le voici. Puis un peu plus tard, levant les yeux au hasard, j'ai vu l'intérieur de la maison rempli d'une belle brume blanche, une brume blanche qui flottait à l'intérieur de la maison et des éclairs de lumière blanche brillaient. Un très beau spectacle c'était, et mon cœur bondit de bonheur. Dehors, de la vapeur montait du lac dans la chaleur du soleil, des gens faisaient leur jogging sur son pourtour. Un homme s'affairait parmi des barques en forme de cygne, prêt à accrocher les derniers clients de la saison, et des corbeaux, en bande panique, croassaient. J'ai repris la route, me dirigeant vers les montagnes du centre. C'est vers la fin de l'après-midi que je suis arrivé au parc national de Deisetsu-san. Juste à côté du restaurant où je me suis arrêté au bord de la route, je vois une boutique musée Ainu Kenkyu-kai. J'entre, un petit endroit sombre et une vieille assise au coin du feu, une vieille sorcière à la peau brune qui me laisse circuler parmi les sabres aux fourreaux décorés. Les riches étoffes ornées de lourds motifs tout en vagues et en volutes, les poteries bleues et blanches, les sandales de paille et les chaussures de neige, les crânes d'animaux, les peaux d'ours et les énormes saumons argentés avec leurs gueules rouges et leurs yeux de sage. « Où allez-vous ? » demande la vieille quand je m'apprête à sortir. « Deisetsu-san, le mont de la grande neige, énorme, là, sur l'horizon. » Lieu sacré des Ainu, maison des esprits. Le mont de la grande neige. L'automne se changeait en hiver, le jaune rouge en blanc, la feuille en flocon, à mesure que je gravissais les pentes du Deisetsu-san. À un certain endroit, la neige tombait si dru que je voyais à peine la route et je me suis mis à craindre de m'enfoncer dans le vide neigeux et de m'ensevelir pour de bon dans une congère. Cela peut paraître parfois un bon moyen de sortir de tout le bruit et de toute la confusion, mais une fois sur place, le corps se rebelle, veut garder les pieds sur cette sale et saoule vieille terre rouge. Donc, j'étais inquiet, tout en continuant à poser un pied devant l'autre. Mais le ciel s'est éclairci un moment, assez longtemps pour me permettre d'arriver à une petite station de sport d'hiver où j'ai trouvé une vieille auberge et un lit pour la nuit. Ce qui m'a frappé au premier abord, c'était le morceau d'obsidienne posé dans le vestibule, un énorme bloc noir de pierre dense et luisante. J'avais vu beaucoup d'obsidienne au musée de Tokyo dans la salle Ainu et j'en avais revu dans la cabane musée près du café. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que mon chemin allait être jalonné par cette roche noire, noire comme le noir. La neige s'amoncelait sur la fenêtre de ma chambre, les étoiles brillaient parmi les flocons et la lune, une grosse lune jaune en délire, voguait à travers le ciel brouillé. J'aimais ce déchaînement au dehors et à l'intérieur, l'ordre et la propreté, les murs nus, le poêle, le tatami bordé de verre, un lieu de méditation au sommet du mont Tempête. Quand j'ai quitté la petite Honsen le matin, ce fut pour me plonger dans un brillant monde de neige dominé par l'Asahi, le plus haut sommet de ce massif central, le plus haut en fait de tout le Hokkaido. Il se dressait là-haut à 2520 mètres, entouré de tous les autres, Eboshi, Akadake, Akuhun, Hokai, Hakuchin. C'est en sortant d'un restaurant où j'avais pris un petit déjeuner frugal que j'ai rencontré l'Américain, environ 30 ans, un de ces Américains errants, presque muets, que j'ai l'impression de toujours rencontrer dans les lieux écartés, pèlerin du vide. Je ne crois pas qu'il s'attendait plus que moi à trouver un autre Caucasien aux grands yeux à cet endroit-là, à cette heure-là. Aussi, notre rencontre provoqua-t-elle d'abord un regard étonné, puis un sourire, puis un tranquille « Hey, hello !» avant de s'épanouir en un petit dialogue du genre « D'où tu viens? Où tu vas? Qu'est-ce que tu as vu ?» Il se dirigeait vers Sapporo et ensuite vers Boston, après une quinzaine passée à vadrouiller dans le Deiset Zuzan et la Cannes. Il lui a dit que je venais de Glasgow et que j'espérais aller jusqu'à Wakami sur le détroit de Soya. Je ne voulais pas parler de mon désir secret, aller voir les signes. Alors bon voyage, c'est ça, bon rêve et bonne route. Respirant cet air qui me paraissait presque mentholé, je me suis engagé sur la route de Matsuyama. C'est là que j'ai vu une merveilleuse cascade qui, m'a-t-on dit, s'appelle Hagoromo, le manteau de plume, et qui m'a fait penser à une pièce no traduite par Fenollosa et retravaillée poétiquement par Ezra Pound. C'est une pièce, un seul acte, sur la perte et la redécouverte d'un chemin. J'ai passé 2 jours là-haut, sur le flanc de la montagne, à écouter le silence, à regarder dans la lumière. Je descendais vers Kushiro en longeant une rivière bordée de bouleaux tandis que le vieux père Tan accumulait des nuages derrière moi. La route 273 était droite et nette et de chaque côté s'étendaient de vertes prairies. J'avais repris mon rythme d'autostop et de marche à pied. Après un parcours de quelques heures le long de la rivière, je suis entré dans Ashoro, un magasin de spiritueux, un garage et la voix d'une jeune fille qui chantait dans un haut-parleur un chant nostalgique en ce samedi après-midi ensoleillé dans le vide. Poursuite de la route jusqu'à Hombetsu, une rue de village bordée de sorbiers des oiseaux, j'ai pris un café avec un hambargo avant de trouver enfin une voiture qui m'a emmené à Kushiro. Kushiro, petite ville industrieuse, remplie d'une odeur de poisson. Je suis l'odeur jusqu'au port, fin d'après-midi, lune pâle dans le ciel, tas de sel ici et là, l'odeur du poisson maintenant mêlée à celle de l'huile de moteur, une rangée de bateaux revenus de la pêche, Kaikomoru, Haishomaru, Urangimaru, mouette tournoyante au-dessus, et moi qui me sens à des millions de kilomètres de tout. Un petit homme moustachu, foulard blanc, noué autour de la tête, s'approche de moi et dit « America Jin ». Je réponds que oui. Il dit « Welcome, Japan ». Je lui demande s'ils partent toujours pêcher la baleine, vous savez, les grosses, hein, celles qui soufflent. Il dit que non, c'est fini. Depuis 10 ans, ils vont pêcher les petits maintenant, les tout, tout petits. Et ceux là-bas, et il pointe le doigt vers un maquereau gisant sur la jetée. Kushiro, tombé de la nuit. Errant de rue en rue, je note les noms des bistrots et des snack bars. Plus one. Nice Space, Free Talk, Royal Snack, Mrs. Picasso, Playing Space, Meine Liebe et Lali Lulelo. Tenté par Lali Lulelo, toutes ces jolies petites voyelles, j'ai monté un escalier jusqu'au premier étage où celui-ci était installé, mais voyant que l'escalier montait encore plus haut, j'ai continué et suis arrivé dans le plus minuscule des restaurants où j'ai mangé une assiette de sardines avec une bière de Sapporo, avant d'aller chercher un endroit pour passer la nuit. La ruelle des chats, c'est là que j'ai logé à Kushiro. Ne sachant pas grand-chose de la langue et incapable de lire la plupart des caractères, me déplaçant en silence, je suis obligé de renommer les lieux pour mon propre usage et c'était une petite rue pleine de chats, alors je l'ai appelée la ruelle des chats. J'ai quitté Kushiro tôt le matin et me suis dirigé vers Nemuro. Les rues de Kushiro étaient encore noyées dans la brume et des centaines de corbeaux sillonnaient et fouillaient les rues. Alors que la brume cédait la place au soleil et au ciel bleu, la côte apparut dans toute sa netteté et sa clarté. Bateaux à l'ancre, grues défilant dans un élégant silence, ramasseurs de coquillages affairés. À un endroit appelé Itoizawa, j'ai trouvé un café avec de grandes fenêtres qui donnaient sur la mer. Je me suis assis là avec mon livre Ainu bleu devant un pot de thé et je suis tombé sur ceci dans le champ de l'oiseau rouge sang. On voyait clairement remontant le cours de la rivière un étroit chemin de lumière. Quand j'ai repris la route, je pensais à cet oiseau rouge sang suivant un étroit chemin de lumière, une rivière de rêve. Toute cette région ressemble à une réserve d'oiseaux, bien que je ne pense pas qu'elle en ait le statut. Elle n'en a pas encore besoin. De temps en temps, je voyais les grues avancer avec une grâce incroyable dans le silence étincelant, ou une bande de hérons gris fumés, faite chair, se reflétant dans l'eau claire et tranquille. Un vieux caractère japonais pour élégance me vient à l'esprit. Les dents d'un animal et un oiseau en vol. Akeshi, à la pointe d'un promontoire, tire son nom d'un mot aïno qui signifie « le lieu des huîtres ». Son port était rempli de bateaux servant au ramassage du kombu. Ils vont chercher les algues près des îles Abomai, lesquelles ne sont pas japonaises mais russes. Encore des grues s'élevant au-dessus d'une mer d'herbes jaunes, les canards sauvages volant au-dessus d'un marécage, une plage de sable noir. Je suis arrivé à Nemuro par l'autobus. À Nemuro, j'ai rencontré des crabes vivants dans la venelle des crabes, une longue rangée de cabanes fumantes où l'on cuit des crabes aux couleurs vives, tâtonnant comme des aveugles pendant que le client attend. Je me tenais là sans rien attendre de spécial quand une petite femme en épais tablier de caoutchouc est sortie de la vapeur et s'est approchée, me mettant un énorme crabe rouge sous le nez. « Hana Sakigawa !» dit-elle en éclatant de rire. J'ai dû avoir l'air de ne rien comprendre, ce qui était exactement le cas. Elle pointa le doigt sur moi, puis sur elle, puis sur le crabe, et éclata de rire une nouvelle fois, rejointe par une autre cuisinière qui se tenait à côté, les mains sur les hanches. « Hana Sakigawa !» répéta-t-elle. Et elle pointa le doigt sur elle, et ensuite sur les crabes. « Ah, Sodès !» ai-je dit, et j'ai ri aussi, ne comprenant toujours pas trop de quoi il retournait, mais flairant une allusion sexuelle et ne voulant pas gâcher son plaisir, j'ai pointé le doigt sur le crabe, puis sur elle. « Aïe !» s'écria-t-elle, et elle me foira le crabe dans les mains en cadeau et partit en courant reprendre son travail. Et sous la grosse lune de Nemuro le soir, dans la froide solitude de la nuit du Pacifique Nord, j'ai renouvelé mon allégeance. Dans la lumière et dans l'obscurité, au globe terraqué qui reste, en dépit de tout, encore si beau. Plus tard, cette nuit-là, dans ma chambre au North Sea Hotel, je pensais au fait qu'au XVIIIe siècle, la dernière fois que des questions profondes furent débattues en public, les signes étaient au centre des débats concernant le sauvage et le domestique, le civilisé et le primitif, le barbare et le cultivé. Buffon était tout en faveur de la nature ordonnée et décorative. Quelle est belle cette nature cultivée que, par les soins de l'homme, elle est brillante et pompeusement parée. Mais en même temps, Buffon reconnaissait que les hommes peuvent parfois trop en faire et, tout en démontrant quel grand progrès avait été apporté à la civilisation par la domestication d'animaux tels que le cheval, le bœuf, le chien et le mouton, il voue une admiration et un amour secret aux indomptables qui vivent dans les régions sauvages et lointaines, les déserts brûlants, les montagnes glacées, comme les cygnes. C'est cela qui transparaît dans ce texte révélateur de l'histoire naturelle des oiseaux. Dans la grosse édition in-folio du XVIIIe siècle que j'ai consultée à la bibliothèque de la Sorbonne à Paris, la seule et unique illustration se trouve être une gravure représentant un cygne apprivoisé, il a peut-être même les ailes coupées, flottant sur un bassin au pied d'un escalier monumental dans le jardin du roi. Mais le texte s'en excuse et part dans une autre direction, ouvre un espace qui est autrement plus intéressant, autrement plus passionnant que cette, entre guillemets, scène artistique. si la plupart des esprits occidentaux ne peuvent imaginer les cygnes que flottants, c'est parce qu'ils ont oublié ce qu'est un cygne sauvage. Quand ils pensent au cygne, ils le voient dans un espace restreint, gracieux et décoratif, sans plus. Tandis qu'Hésiode, lui, savait, qui appelle le cygne altivolence, oiseau de haut vol, et Homère, qui dit que le cygne avec les oies et les grues est un des grands voyageurs du monde. Buffon se lance ensuite dans une riche nomenclature, comme je les aime, faisant le tour du monde en mots. Cygne se dit kouknos en grec, olor en latin, en arabe baslak ou sinana, en italien signo, sino, en espagnol cisne, en catalan cygne, en allemand schwan, en saxon et en suisse elsb, en anglais swan et le petit cygne. En suédois, svan, en illyrien, labut, en polonais, labek, aux Philippines, tagak. Après cela, Buffon insiste sur la grande beauté physique de l'oiseau, sa forme et ses mouvements, et prend à témoin Virgile, Ovide et une douzaine d'autres poètes. Il ajoute que le cygne est également intelligent et fort. Son coup d'aile, dit-il, pourrait casser la jambe d'un homme. Il vit aussi une longue vie, certains disent jusqu'à 300 ans, ce qui est sans doute exagéré. Pourquoi ai-je donc emporté dans mon sac ces pages photocopiées d'un vieux texte du XVIIIe siècle au lieu d'un livre d'ornithologie moderne ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai laissé entendre, pendant tout ce XVIIIe siècle, déjà bien lointain, existait, avant toutes les spécialisations, cette discipline générale nommée philosophie naturelle, discipline dans laquelle la poésie, les sciences et la philosophie étaient réunies et où l'attention se portait sur un questionnement total, ainsi que sur la recherche d'une compréhension globale, d'une appréhension complète du monde. Ce questionnement peut encore être le nôtre, même si les réponses, cela est évident, ne peuvent plus être les mêmes. Il n'y a probablement pas de réponse globale, mais ce qu'il peut y avoir, c'est un champ de correspondance. Ne me parlez plus de littérature. Autour du lac, encore une aube, la brume qui monte des eaux du Pacifique et dans la mâture des bateaux de pêche du port, des grappes de corbeaux silencieux. Je me dirigeais vers la péninsule de Notsuke. Après un premier trajet en camionnette, je m'étais mis à marcher quand un poids lourd m'a dépassé qui portait sur le côté cette inscription « Spirit Coopération Compagnie ». J'ai pris cela comme un bon augure, compagnie de l'esprit de coopération. À Tokyo, j'avais entendu parler d'un lac, tout au bout de la péninsule, où l'on peut voir les cygnes sauvages arrivés de Sibérie pour hiverner. Mes dates étaient à peu près bonnes. J'avais l'ombre d'une chance. Vers la fin de la journée, je suis arrivé à un endroit où il y avait un lac d'un côté de la route, de l'autre une auberge et à côté une cabine téléphonique surmontée d'un cygne en métal. Ce devait être là. L'auberge des cygnes, qui avait à sa porte un énorme morceau d'obsidienne, comportait deux étages. En bas, un restaurant et en haut, une sorte de galerie des cygnes avec des photos sur les murs, tout autour de la salle, des cygnes fendant l'air, dormant dans la neige, pêchant dans le lac, le tout accompagné de textes informatifs. Je me suis assis dans le restaurant pour manger et me suis attardé un moment avant d'aller demander aux gens de l'auberge s'ils avaient un endroit où je pourrais passer la nuit ainsi que les nuits suivantes, car j'étais venu voir les cygnes. Ils m'ont répondu qu'ils ne prenaient pas de pensionnaires, mais qu'il y avait un terrain de camping et de caravaning un peu plus loin. J'ai dit que je n'avais pas de tente, pas de caravane, pas de voiture, et leur ai demandé s'ils me laisseraient dormir dans la galerie des cygnes. Après quelques hésitations, ils ont fini par accepter. C'était peut-être l'esprit de coopération qui était à l'œuvre. J'ai étendu mon sac de couchage, montré que je n'allais pas faire de chantier, que je ne fumais pas et que, et là, j'ai sorti mon gros livre « Aïnou bleu » et que j'étais un étudiant de la nature et de l'esprit. Et ils ont paru rassurés. Avant de m'installer pour dormir, j'ai fait un petit tour de salle, éclairant les images de cygnes avec ma lampe de poche, comme quelques Platons paléolithiques. Pendant les quelques jours qui suivirent, j'ai hanté ce lieu. C'était tellement beau sur les bords du lac, les roseaux, le calme, la clarté de l'air. Je longeais les rives ou m'allongeais sous un arbre et attendais. Deux jours ont passé, puis trois, puis quatre, sans que rien ne se produise. Je continuais à marcher silencieusement autour du lac. Puis au soir du cinquième jour d'attente attentive, dans le crépuscule bleu et rose, il y eut un grand cri dans l'air, un grand « ouh, ouh, ouh » suivi d'un bruissement d'ailes. C'était comme le cri entendu autrefois sur la Méditerranée, le grand paon est mort, mais dans le sens inverse. Soudain, le vide fut rempli de clameurs et de battements d'ailes. Ils arrivaient par groupes de 5 à 10. D'abord un groupe, puis un autre, puis un autre. J'ai attendu jusqu'au moment où il y eut environ 90 oiseaux sur le lac. Puis je suis rentré à l'auberge pour dormir avec l'intention de me lever avant l'aube. Très tôt le matin, j'étais aux aguets parmi les roseaux du lac, dans le marais jusqu'aux genoux à un certain moment, attendant le lever du jour. Ce sont les canards qui se sont réveillés les premiers, rasant la surface de l'eau dans une grande agitation, tandis que les cygnes dormaient toujours. Un miroitement et un frémissement sur les eaux bleues sombres, le vent dans les herbes dorées. Ce n'est que lorsque le soleil s'est levé que les oiseaux à tête blanche se sont réveillés, déployant leurs puissantes ailes et commençant à pousser un cri, tantôt ici, tantôt là. Je restais tapis au milieu des roseaux, à les regarder, à les écouter. Puis l'un d'eux s'est élevé dans l'air, suivi d'un groupe, puis d'un autre, tous criant en chœur. Ils ont tourné, tourné. Ils ont tourné, tourné dans l'air vif et clair. Je les ai suivis des yeux et de l'esprit. Sur le lac vide, ce matin du monde, les cygnes sauvages. Sur le lac vide, ce matin du monde, les cygnes sauvages. Vous retrouverez cette belle lecture vous-même, tout simplement en vous procurant le livre de Kenneth White, Les cygnes sauvages, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Vous le trouverez sans aucune difficulté chez votre libraire. Sinon, vous pourrez évidemment le lui commander. Excellente fin de journée à toutes et à tous et restez à l'écoute des programmes de Radio Ranciel.